Donc bonsoir à tous. On va faire un livre blanc qui est consacré au GIEC. Donc pour les novices, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en anglais, on le nomme IPCC. Donc c'est un organisme intergouvernemental qui a été créé en 88 à l'initiative du G7. Donc, il dépend de l'organisme météorologique mondial et de l'ONU. Donc, c'est une institution onusienne. Donc, il n'y a pas de personnes morales qui sont membres. C'est des États qui sont membres du GIEC. En gros, pour faire simple, c'est tous les États qui sont à l'ONU. Donc, 195, sauf le Vatican et Taïwan.
On t'entend plus.
Donc, quel est son rôle ? Donc, en gros, ça va un peu être comme un organe de presse. Donc, les experts, ils vont synthétiser toutes les publications scientifiques. Donc, ils vont mettre de part tout ce qui est dans les journaux, toutes les publications qui n'ont pas été revues par des scientifiques dans les journaux de presse, ils ne vont pas du tout en servir. Donc, ils vont faire le focus là-dessus, ils vont tout condenser. Pour donner quelques chiffres, donc... Le résumé, le dernier rapport, il a résumé 14 000 papiers scientifiques. Et ils ont répondu, les auteurs et les autrices, ils ont répondu à 78 000 commentaires de gouvernements et d'experts. Et donc, il en est sorti trois résumés. Un résumé à l'intention des décideurs en 42 pages. Un résumé un peu plus technique en 159 pages et le rapport complet qui fait 4000 pages. Donc, il y a Jean-Marc Jancovici, il fait une citation, il dit que tout ce qui est fait l'objet d'un consensus dans le rapport du GIEC peut être tenu pour certitude. Ça, c'est le point de vue de Jean-Marc Jancovici. Et c'est la plus grande mise à jour de l'état des connaissances scientifiques et de la compréhension physique sur le climat. Et c'est important de dire aussi que les auteurs scientifiques qui rédigent les rapports, ils ne sont pas rémunérés et les contributeurs non plus. Donc, notre livre blanc, il va se diviser en quatre parties. Donc, il y a Ashkamen qui va commencer en présentant l'état actuel du climat. Ensuite, l'outre-poutre nous parlera de l'évolution climatique à venir. Ashkamen reparlera fera une autre partie sur les risques et les adaptations locales. Et enfin, Azote, il parlera des limitations des futurs changements climatiques. À la suite de ça, il y aura une partie où vous pourrez poser des questions. Et ensuite, on fera un débat. Voilà. Je vais donner la parole à Ashkamen, s'il est prêt, qui commence.
Tout à fait. Donc, je prends la parole. Vous m'entendez bien, c'est bon ?
C'est bon.
Alors, c'est parti. Donc, l'état actuel du climat. Donc, il y a 7 ans, en 2014, donc, il y avait la publication du précédent rapport du GIEC, donc le AR5. Et on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis, parce que donc, c'est il y a 7 ans. Je vous poste une petite image donc, qui montre en fait l'évolution de la température moyenne au niveau de la surface du globe. Donc on peut voir qu'on a gagné 85 à peu près donc 10, un peu plus, enfin 20 degrés, un peu moins de 20 degrés, 0,2 degrés, par rapport donc à il y a 7 ans, par rapport à ce qui était prévu, donc on a un accroissement continu. Et effectivement, on voit que ça ne s'abaisse pas, ça continue à augmenter, même s'il y a des fluctuations. Donc ça, c'est par rapport à la température. Par rapport, en fait, au reste, donc pourquoi il y a eu un nouveau rapport, outre le fait que on a amélioré les techniques de modélisation et que il y ait des améliorations, des nouvelles données. Ils ont accès aussi donc différentes parties de leurs études sur donc des nouveaux points ou en tout cas donc ils les ont avant c'était des suppositions, maintenant c'est des certitudes ou alors c'est quelque chose qui est avéré. Typiquement avant l'influence on disait que l'humain avait une influence sur le climat, maintenant on dit que en fait c'est le changement climatique et en fait dû à l'activité humaine. On a aussi donc par rapport à ce nouveau rapport un changement des intensités de magnitude par rapport à ce qu'on pensait avant, enfin ce qu'on avait estimé avant, on a maintenant des valeurs par rapport à ce qu'on disait, voilà dans 100 ans il y aura un changement de température ou un changement d'acidité, c'était pas vraiment quantitatif, c'était plus qualitatif, là actuellement on a il y a des nouvelles études qui ont, enfin, les études qui ont été étudiées nous permettent justement de pouvoir faire une analyse quantitative. Et ensuite, donc, il y a une étude plus précise sur les événements climatiques extrêmes, donc par rapport au relevé, par rapport à ces études. Donc c'était il y a 7 ans. Maintenant, si on remonte un petit peu plus loin, on va remonter il y a 55 millions d'années. Juste pour Giovanni, mets un petit point d'interrogation en devant ta question, comme ça au moins on la repérera après, un petit icône question. Donc là j'ai partagé sur le chat une petite image qui est dans le rapport du GIEC de quelles étaient les températures, le taux de CO2, le nombre de glaciers, le niveau des eaux dans l'histoire. Donc il y a 55 millions d'années, à l'ère donc du Paléocène et Éocène, ils étaient 10 à 25 degrés plus chaud. Donc là actuellement, par rapport à ce qu'on a maintenant, au niveau donc du carbone, on voit que on est beaucoup beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait donc il y a 55 millions d'années. Donc c'est ça qui fait qu'on craint qu'il y ait des changements climatiques très brusques. Et d'ailleurs, ce qu'on ne voit pas sur l'image précédente, mais que je pourrais vous montrer plus tard, c'est qu'en fait, ce changement de température moyen au niveau de la surface terrestre, il est brutal par rapport à tout ce que l'on a connu. Effectivement, avant, on voit qu'il y a 50 millions d'années, il faisait beaucoup plus chaud. Par contre, c'était sur des évolutions beaucoup plus lentes. Et là, c'est sur une évolution de température sur des échelles de temps très courtes. Donc effectivement, si dans le Paléocène on était donc des pseudo-dinosaures, je sais pas trop ce que cette espèce était, on pourrait peut-être s'adapter, mais comme on est des mammifères, peut-être ça va être plus compliqué de s'adapter. Donc ça c'était une nouveauté aussi du nouveau rapport qui étudie au niveau qui corrèle au niveau des éléments paléoclimatiques. Les nouveaux changements qu'il y a et qu'on peut projeter. Et donc je finirai cette partie en disant qu'il y a un impact observable sur l'atmosphère, les océans et la cryosphère. Donc je vais vous partager une autre image. Donc sur cette image là, donc qui divise en fait dans les quatre éléments, les changements en fait qu'il y a eu. Et on voit que en 50 ans, enfin un peu plus de 50 ans, il y a vraiment un impact par rapport à effectivement 50 ans auparavant. Et cet impact en fait, il est humain. Et c'est ça que le rapport démontre. Alors je vais vous partager aussi, je pense que ça permettra d'introduire le reste des présentations. En fait, dans les rapports, on a souvent étudié trois gaz, donc le CO2, le CH4 et le N2O, enfin le nitrure d'oxyde, je ne sais pas comment ça se dit en français. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'en fait, ce sont ces trois gaz qui ont le plus grand effet sur les effets radiatifs forcés. Donc, c'est-à-dire en fait sur tout ce qui est albédo, réfraction au niveau de l'atmosphère. Et aussi, ce sont des gaz qui restent plutôt longtemps. Est-ce que j'ai cette image ou pas? Non, je ne l'ai pas. Donc, ça, ce n'est, alors, sachant que par exemple l'ozone reste par exemple quelques semaines dans l'atmosphère haute, le CH4 lui il reste 12 ans. Ensuite, d'autres gaz de carbone restent quelques jours, et les alcalocarbones, donc les les espèces halogènes, elles restent entre 1 et 20 ans. Je vous partagerai d'autres images plus tard. Donc voilà, donc j'ai fait une petite introduction globale donc de qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, qu'est-ce qui impacte et qu'est-ce qu'on regarde au niveau donc des gaz. Il y a d'autres choses qu'on regarde aussi, donc c'est surtout en fait le monitoring de toutes les données au niveau climatique. Donc on a vu ça de manière assez rapide. Maintenant je vais vous laisser, je pense que je vais laisser la parole à Litropout pour qu'il va pouvoir donc vous dire les effets futurs. Enfin, il vous introduira ça mieux que moi. Donc voilà, je laisse la parole à Litropout.
Et bien bonsoir à tous, encore une fois. Donc, je vais vous parler des évolutions climatiques à venir ou quels vont être les possibles climats futurs. Donc, dans sa méthode, le GIEC se propose pour être exhaustif de formuler 5 scénarios possibles. Ces scénarios, ils sont faits pour pouvoir déterminer et présenter de manière cohérente et crédible les possibles climats futurs. Ils vont se construire autour d'observations dans le temps et de modèles liés à des effets précis. Ces modèles, ils vont chacun prendre en compte et se construire autour de différentes estimations. Par exemple, ils vont surtout se centrer autour de l'évolution des gaz à effet de serre, qu'on appelle les GES, les GES, les GES, les GES Watt, et de l'utilisation de la Terre et des polluants atmosphériques. Ils vont aussi prendre en compte différents phénomènes liés au climat, par exemple le forçage volcanique. Le forçage volcanique, c'est lorsque un ensemble de cendres qui découlent d'une éruption vont aller obscurcir le ciel et donc bloquer le rayonnement du soleil. On peut aussi appeler ça l'hiver volcanique. Donc nos 5 modèles, ils vont se séparer en prévision à court terme de 2021 à 2040, à moyen terme de 2041 à 2060 et sur le long terme où ils vont aller se fixer sur la période 2081-2100. Ils vont se baser aussi sur l'évolution du climat notable qui a été entre 1850 et 1900. C'était une période où l'homme avait une certaine activité industrielle, mais on l'estime pas suffisamment notable par rapport aux données qu'on a pu recevoir avec l'avancée technologique. Et ça nous permet donc d'avoir une sorte de sweet spot pour, au niveau des informations qui vont être captées, des pollutions qui sont faites, mais qui sont quand même de faible ampleur, avec un certain recul temporel. Donc c'est vraiment une période modèle pour un climat où le début de l'ère industrielle qui ne va pas trop changer par rapport à l'action de l'homme. Donc vraiment entre 1850 et 1900, on a une bonne dose de données qui permettent de voir comment le climat et la température en l'occurrence va évoluer sur ces 50 ans. Donc c'est vraiment une période auquel ils attachent une importance particulière. Elle est assez bien renseignée et elle est, on va dire, libre de trop d'interférences humaines au niveau climatique. Donc, je vais vous partager un petit diagramme qui va vous montrer donc, les évolutions de température selon les 5 modèles que je vais vous décrire. Donc, je vous laisse le parcourir. Pendant ce temps-là, je vais vous donner quelques nombres pour vous représenter un peu l'évolution climatique dans des périodes un peu plus grandes. L'augmentation observée de la température entre 1850-1900 et la période 1995-2014 est de 0,85 degrés. C'est-à-dire que la température moyenne entre 1850-1900 et la température moyenne observée entre 1995-2014 a une différence supplémentaire de 85 degrés, de 0,85 degrés supplémentaires pour 1995-2014. Et pendant ce temps-là, l'élévation de la mer est estimée autour de un peu moins de 16 cm. On va parler un petit peu du CO2. Le CO2 que l'humanité va émettre, il reste, en l'occurrence, stocké dans l'atmosphère au moins 200 ans. C'est un chiffre qui avance, enfin, c'est un nombre qui est avancé, c'est celui qui a l'air de faire foi dans les milieux. Et donc, le CO2 dans l'atmosphère, on va le calculer et l'exprimer en ppm, des parties par million. Actuellement, on a entre 411 et 414 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Et chaque année, on en gagne 1,5 à 2 ppm de plus. Il faut savoir qu'à 450 ppm, on estime que le réchauffement, 450 ppm de CO2, je précise, le réchauffement climatique atteindra plus de degrés, par rapport à la période 1850-1900. On allait vous dire que les engagements pris par les États signataires de l'accord de Paris, ils ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 3 degrés. 3 degrés de plus par rapport à notre période, c'était la même température qu'il y avait dans le Pliocène. Le Pliocène, c'est une période qui a commencé il y a 5,3 millions d'années, c'est une période géologique, on appelle ça comme ça, et elle s'est terminée donc il y a 2,6 millions d'années. Pourquoi est-ce que je vous parle du Pliocène ? Parce qu'une augmentation de 3 degrés, c'est à venir. Et il y a un petit détail qui m'a fait rire, c'est que le Pliocène, on va le séparer en deux parties. On a le Pliocène supérieur, qui est aussi appelé le Zencléen. Et là où ça m'a fait rire, c'est que la deuxième partie, le Pliocène inférieur, donc le plus proche de notre époque, celui qui va se terminer à 2,6 millions d'années, on appelle ça le Plaisancien. Le Plaisancien, c'est joli, c'est doux, il fait bon vivre, ça fait du bien. Maintenant, je vais vous parler de l'évolution de la concentration du CO2 et des gaz à effet de serre. Et pour ça, je vais vous partager un deuxième petit graphique. Il va donc, vous allez avoir des lignes qui vont vous présenter donc, selon chaque scénario, l'évolution du CO2, ainsi que le protoxyde d'azote, par exemple. On va avoir le méthane, le CH4. Bon, pour le protoxyde d'azote, c'est le N2O. Et aussi, ils vont prendre aussi un autre composant atmosphérique, un polluant atmosphérique, le dioxyde de soufre. Donc, vous pouvez voir. Plus c'est rouge, plus ça va haut, et je vais vous décrire chaque scénario dans quelques instants. Donc déjà, il faut savoir que donc, c'est les principaux paramètres qui vont être pris en compte, c'est donc par le GIEC, le CO2 et les gaz à effet de serre, tout ce qui va interagir avec l'atmosphère. Le plus important reste à prendre en compte, c'est réellement le CO2, et les gaz à effet de serre ont une importance moindre. Mais il faut en tenir compte, quoi qu'il advienne. Pour les scénarios, chaque scénario va en fait se baser sur des hypothèses socio-économiques et des niveaux d'atténuation du changement climatique différents. Ils vont aussi prendre en compte, par exemple, les aérosols et les précurseurs d'ozone non méthanique qui vont être à surveiller par des contrôles de la pollution atmosphérique. Bon, les aérosols, ce sont des fines particules qui vont être solides ou liquides, qui découlent de composés chimiques, qui vont se retrouver dans l'atmosphère dans le cas présent. Et pour les précurseurs d'ozone, bon, l'ozone, c'est un polluant de l'air, c'est nocif pour la santé, pour l'homme, pour la faune, pour la flore. Et donc, ces précurseurs, ce sont en fait les composants atmosphériques qui vont se transformer sous l'action de la chaleur dans l'atmosphère en ozone. Donc, à travers ça, on veut dire que ce qui va donner l'ozone, ce sont des composés tels que les oxydes d'azote, le NOx. Alors, on a la fameuse famille des composés organiques volatiles, qu'on appelle les COVS, COVS. Le méthane en fait partie, par exemple. Et le monoxyde de carbone. Donc, ces composants-là, ça va dans l'atmosphère, ça se mélange sous l'effet de la chaleur, ça fait de l'ozone, pour faire simple. Dans ces modèles, il y a des ils peuvent se confronter à des hypothèses alternatives qui peuvent donner lieu à des émissions ou des réactions climatiques similaires. Donc, ils vont avoir un impact sur le climat. Mais en fait, ces hypothèses, elles sont, pour beaucoup, elles vont dépendre de contextes socio-économiques. Le GIEC ne va pas chercher à savoir si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire. Le GIEC cherche surtout à proposer 5 scénarios probables pour pouvoir envisager qu'est-ce que va être l'évolution du climat. Donc, et vraiment, ces 5 scénarios, leur principale valeur ou vecteur de changement, ça va être simplement les niveaux de CO2 et de gaz à effet de serre produits et émis par l'humanité. Donc, pour nos 5 scénarios, je vais vous les décrire un petit instant. Je vous donne un petit diagramme qui est très intéressant, qui va donc vous montrer l'effet des gaz à effet de serre et du CO2 en proportion dans le réchauffement climatique. Donc, si vous regardez un peu le diagramme, vous verrez que dans les premiers scénarios que je vais vous décrire, le CO2 et les gaz à effet de serre, ça va. Dans les autres, c'est de plus en plus exponentiel au niveau des quantités, et c'est vraiment le CO2 qui, à chaque fois, a la part importante du pourcentage d'importance dans l'évolution climatique, à comprendre le réchauffement. Bon. Donc, nos 5 petits scénarios, vous allez voir, ils ont des noms sympathiques. Nous avons le premier scénario, le SSP1-1.9. Celui-ci nous propose des émissions de gaz à effet de serre très faibles et des émissions de CO2 qui vont diminuer et devenir négatives après 2050. Puis là, donc, le SSP1-1.9, c'est un peu un nom barbare, c'est la nomenclature du GIEC. On va pouvoir, moi comme nos autres intervenants, vont pouvoir le raccourcir sous le terme scénario très faible, ou simplement très faible. Très faible parce que très faible émission de CO2 et de gaz à effet de serre. Ensuite, nous avons le deuxième scénario, le SSP1-2.6 ou 2.6. Nous avons des émissions de gaz à effet de serre faibles. Les émissions de CO2 en diminution est négative après 2075. Donc celui-là, je vais l'appeler le scénario d'ampleur faible, d'émissions faibles. Donc vous notez, dans le premier, le plus optimiste, celui avec des émissions très faibles, les émissions de CO2 diminuent et deviennent négatives après 2050. Là, pour le scénario faible, les émissions de CO2 deviennent négatives après 2075. Ensuite, nous avons le scénario 3, le SSP3-7.0, autant pour moi, avec des émissions élevées de gaz à effet de serre et des émissions de CO2 qui vont être doublées d'ici 2100. Donc celui-là, ce sera le scénario élevé. Et autant pour moi, entre l'élevé et le faible, on a quand même un scénario intermédiaire. Je viens de le sauter, c'est donc le SSP2-4.5, avec des émissions moyennes de gaz à effet de serre et des émissions de CO2 qui vont être en légère augmentation jusqu'en 2050 et diminuer ensuite. C'est donc la voie intermédiaire. Un certain équilibre. Après, le GIEC ne se pose vraiment pas la question de est-ce qu'il y a une voie d'équilibre ou pas entre les deux. C'est vraiment 5 chemins qui sont possibles et probables selon vraiment les productions de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, le scénario élevé, nous l'avons fait. On vient de parler du scénario intermédiaire. Maintenant, le petit Big Boss, le SSP5-8.5. C'est un scénario où nous avons des émissions très élevées de gaz à effet de serre et des émissions de CO2 doublées d'ici 2050. C'est donc le scénario très élevé. Ces scénarios, ils vont partir à partir du départ de l'étude actuelle du GIEC, qui prend sa base en 2015. Donc ça permet aussi d'avoir un petit recul temporel par rapport à l'étude. De 2015 à 2020-2021, on a un peu de recul par rapport à l'évolution du climat, et ensuite ils vont se projeter jusqu'en 2100 pour la plupart des sujets. Par rapport aux résultats des dernières études du GIEC, on a des résultats qui diffèrent. HK en a parlé un petit peu, on a des nouveaux modèles qui sont plus précis et qui vont prendre en compte une meilleure compréhension de certains facteurs d'influence sur le climat. Par exemple, il y a un phénomène qui est mieux connu dans ce rapport-là, c'est la rétroaction des nuages qui est liée à deux phénomènes, une plus faible couverture nuageuse et une moindre augmentation du contenu en eau liquide des nuages. Donc, les nuages liquides, ils ont tendance à refléter plus de lumière solaire vers l'espace que les nuages de glace. Donc, plus on a de nuages liquides dans l'air, moins on est affecté par le rayonnement solaire, ce qui va limiter le réchauffement climatique. Le problème étant que là, on se rend compte que la rétroaction des nuages est en augmentation de 20% par rapport à la précédente étude du GIEC, parce qu'on la comprend mieux. Donc, il y a pas mal de petits facteurs comme ça qui sont mieux compris. Et ça, ce n'était qu'un exemple. Il y en a une belle liste dans le rapport complet. Et je ne les connais pas assez pour faire une liste exhaustive, mais on vous passera le lien vers le rapport complet du GIEC où vous pourrez vous faire plaisir. Donc, on a des méthodes qui se sont affinées. Je vais un peu retomber sur ce que j'ai dit, mais il y a d'autres facteurs qui ne sont pas pris en compte. Surtout parce qu'on n'a pas vraiment de méthode de vérification crédible et robuste avec suffisamment de recul temporel pour pouvoir estimer que ces effets-là peuvent être pris en compte sans un risque suffisamment grand d'erreur de faute de recul qu'on a dessus. Bon. Et pour compenser, comme je l'ai dit, on comprend mieux aussi certains phénomènes, par exemple certains facteurs qui vont rentrer en jeu dans ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. La rétroaction, c'est quand un effet va être compensé par un autre effet. J'ai fait un exemple un peu nul tout à l'heure. Imaginons la banquise fond. Les êtres humains vont aller tous boire l'eau de la mer pour essayer de compenser la hausse du niveau de la mer qui découle de la fonte de la banquise. Alors ça, c'est un phénomène de rétroaction. C'est vraiment une caricature, mais dans ces phénomènes de rétroaction, en général, un phénomène est bien plus fort que l'autre. Par exemple, la fonte de la banquise entraînera une hausse bien plus importante du niveau de la mer que le fait que chaque être humain aille boire un litre d'eau dans l'océan. C'est vraiment une caricature, mais l'idée, c'est ça, dans les boucles de rétroaction. Il y a des phénomènes naturels qui peuvent compenser le changement climatique, mais ils peuvent le compenser, mais dans la réalité, les effets qui entraînent le changement climatique auront toujours l'avantage par rapport aux effets qui peuvent le contrebalancer dans les boucles de rétroaction. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ensuite, pour petit dialogue du GIEC, lorsqu'il propose son résumé aux décideurs, le GIEC adopte des formules, on va dire, politiquement correctes et scientifiquement acceptables. Par exemple, ils vont dire « il va être certain que » où il y a tel effet, on estime que ça a une fiabilité forte d'arriver, ou une fiabilité moyenne, ou une fiabilité faible. Mais rien qu'une fiabilité faible, ça veut quand même dire que le GIEC en a tenu compte, donc ce n'est pas parce que c'est faible que ça n'arrive pas. C'est peut-être un peu l'évidence, mais je préfère le rappeler comme ça. Maintenant, je vais vous mettre un petit diagramme pour parler de l'augmentation des températures et de l'humidité des sols. Oui, juste avant que vous jetiez sur ce magnifique graphique, qui est quand même bien fait. Donc là, il est rouge, ça va être simplement l'augmentation de la température. Dans les deux cartes que vous avez au-dessus, vous avez à gauche un modèle informatique. Et à droite, vous avez vraiment des observations réelles. Donc, vous pouvez voir que le modèle informatique et les informations réelles se recoupent pour un réchauffement à 1 degré. Et ensuite, les cartes du dessous vont correspondre à des réchauffements de 1,5 degré, de 2 degrés et de 4 degrés. Donc, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et comme on peut voir sur la carte où il y a un réchauffement de 4 degrés, c'est rouge. J'ai oublié de parler de quelque chose aussi, c'est le forçage radiatif, qui est un effet qui est pris en compte par le GIEC. Le forçage radiatif, je vais vous faire la définition littérale, on appelle le forçage radiatif du système climatique toute variation de l'énergie transmise à l'ensemble de du système Terre-atmosphère, causée par les changements des vecteurs de forçage. Typiquement, le forçage, c'est la même chose que le forçage volcanique, c'est ce qui va affecter le climat. Donc, il va être exprimé en watts par mètre carré. Il s'agit donc de la différence, donc le forçage radiatif, c'est donc la différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise pour un système climatique donné. Il va être positif quand on reçoit plus d'énergie qu'on en émet, donc ça va avoir tendance à réchauffer le système, donc le système climatique en l'occurrence. Vous faites de l'énergie, ça produit de la chaleur. Si vous ne captez pas plus d'énergie, de chaleur que vous n'en émettez, ça va réchauffer. Et donc le forçage radiatif est considéré négatif quand plus d'énergie va être émise que reçue. Et donc là, on va avoir une tendance à un refroidissement du système climatique. Ça va, vous me suivez, parce que je vous souhaite bon courage. Donc, on va pouvoir se jeter sur ce magnifique diagramme, enfin, sur ces magnifiques cartes de l'évolution de la température. Alors, il semble certain pour le GIEC que la température à la surface du globe va continuer d'augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle, dans tous les scénarios d'émissions envisagées. Vous pouvez vous reporter au premier diagramme que je vous ai donné sur l'évolution des températures entre 2021 et 2100. Donc, le petit diagramme bleu, où vraiment, selon chaque scénario, vous avez les projections d'augmentation de température possible. Pour refaire un petit rappel, on va estimer que la température moyenne à la surface du globe entre 2080 et 2100 sera très probablement supérieure de 1 degré à 1,8 degré dans le scénario de très faible émission. Donc, je vous le rappelle parce que ça vous fait plaisir, le SSP1-1.9. Donc, c'est le scénario avec des très faibles émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Pour le scénario à faible émission, c'est estimé à 1,3 degré à 2,4 pour comme augmentation de température entre 2081 et 2100. Pour le scénario intermédiaire, nous avons 2,8 degrés et 4,6 de 2,8 degrés à 4,6 degrés d'augmentation de température. Pour le scénario... Ah non, autant pour moi, je me reprends. C'est pour le scénario d'émissions de gaz à effet de serre élevé. Pour le scénario intermédiaire, la hausse des températures entre 2081 et 2100, c'est plutôt de l'ordre de 2,1 degrés à 3,5 degrés. Et donc 2,8 degrés à 4,6 degrés pour le scénario de gaz à effet de serre élevé, donc le SSP 3.7.0. Et pour le pire des cas envisagés, le scénario d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 très élevé, le SSP5-8.5, je l'aime bien, et bien la hausse des températures entre 2081 et 2100, c'est de l'ordre de 2,3 degrés à 5,7 degrés. Petit rappel à toute fin utile, la dernière fois que la température à la surface du globe a été maintenue à un niveau égal ou supérieur à 2,5 degrés par rapport à la période de référence, 1850-1900, ça remonte à un peu plus de 2,6 millions d'années. C'était donc pendant le Plaisancien, la période que j'aime bien. Concernant un réchauffement planétaire de 2 degrés par rapport à la période de 1850-1900, il va être dépassé au cours du 21e siècle dans le cadre des scénarios de gaz à effet de serre élevés et très élevés. Donc les deux derniers scénarios, le SSP 3.7.0 et le SSP 5.8.5. Pour une étude de cas sur un réchauffement planétaire de 2 degrés, ce sera très probablement dépassé dans le cas du scénario intermédiaire. Et dans les scénarios à très faible et faible émission de gaz à effet de serre, il est extrêmement improbable que le réchauffement planétaire soit dépassé, ou peu probable qu'il le soit pour le scénario de faible émission. Donc, en tout cas, dans les 5 scénarios illustratifs, il est très probable que le niveau de réchauffement planétaire de 1,5 degré soit dépassé à court terme. Donc, entre 2021 et 2040, on peut se dire qu'on aura de toute façon une augmentation de température de 1,5 degré. Ensuite, dans le cas des scénarios à très faible émission de gaz à effet de serre, il est plus probable qu'improbable que la température à la surface de la Terre redescendre en dessous de l'augmentation de 1,5 degré vers la fin du 21e siècle. Il y aura peut-être une possible pointe à 1,5 degré, 1,6 degré de plus. Peut-être, c'est pas sûr. Mais bon. En tout cas, dans ces scénarios-là, ça va se stabiliser dans cet ordre-là. Bon, ensuite, on peut réfléchir par terme de palier de réchauffement climatique. tous les 0,5 degrés de plus, tous les degrés de plus, ça va augmenter, ça va entraîner des conséquences exponentielles. Il n'y a pas de formule mathématique, ce n'est pas une simple addition, c'est vraiment plus une multiplication avec différents facteurs pour pouvoir déterminer l'influence de telles augmentations de température. Et je peux dire aussi que c'est pas si pendant une année, on obtient une température supérieure à tel ou tel palier. Par exemple, si on se dit on va vers un palier d'augmentation de température de 2 degrés, si pendant une année, on obtient 2,2 degrés de plus, on n'aura pas forcément dépassé ce palier. C'est peut-être juste une année exceptionnelle. Mais si pendant quelques années consécutives, on a une augmentation au-dessus de l'ordre de 2 degrés, on peut se dire on a dépassé réellement ce palier. Donc, une année, ce n'est pas la règle, mais plusieurs années vont faire qu'on peut valider le fait qu'on a gagné un level dans le réchauffement climatique. Le réchauffement planétaire, c'est sûr qu'il va dépasser les 1,5 degrés et 2 degrés au cours du XXIe siècle, à moins que des réductions importantes des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre n'interviennent dans les prochaines décennies. Donc typiquement, c'est le cas de nos deux premiers scénarios. Dans une moindre mesure, le scénario intermédiaire envisage cette piste tout en se disant que ça va continuer. Donc, on peut s'attendre à quoi ? On va s'attendre à des augmentations de la fréquence et de l'intensité des chaleurs extrêmes. Donc, la fréquence, c'est combien de chaleurs extrêmes tu vas avoir pendant un mois, par exemple, ou une année, ou 10 ans, ou 50 ans. Et l'intensité, ça va être la violence. Par exemple, une chaleur extrême qui donnait 35 degrés, 55 degrés, prenez la valeur que vous voulez. 35 degrés, par exemple, en Périgord, c'est beaucoup, on pourrait dire. Si on a 35 degrés, par exemple, en 2021, l'intensité va augmenter, ce qui fait qu'on n'aura pas 35 degrés, on en aura 37 ou 38. Ça va dépendre absolument du scénario suivi. Donc, on va avoir une augmentation de l'intensité des chaleurs extrêmes, des vagues de chaleur marine, des fortes précipitations. On va avoir les sécheresses agricoles et écologiques aussi dans certaines régions qui vont s'amplifier. On va aussi avoir une augmentation en proportion et en fréquence des cyclones tropicaux, ainsi qu'une augmentation de la réduction de la banquise arctique, du manteau neigeux et du pergélisol. Alors le pergélisol, ou ce qu'on appelle aussi le permafrost, c'est une épaisseur de terre qui est gelée continuellement pendant au moins 2 ans. Donc ça a tendance à aussi capturer beaucoup de carbone, voire même de méthane selon les régions. Du coup, sa fonte est un problème, spécifiquement le pergélisol, je veux dire. Je vous passe un graphique suivant. Donc, on a eu le graphique qui nous montre l'évolution des températures à la surface du globe en fonction de certains paliers de température. Là, maintenant, on va voir les variations de précipitation et les variations d'humidité. C'est assez intéressant à regarder. Je vous laisse voir et faire la relation avec l'autre carte posée au-dessus. C'est des effets qui sont liés. Augmentation des températures, augmentation de la violence des précipitations et de leur intensité. Je vais vous parler aussi un petit peu des océans. Il est pratiquement certain que la surface terrestre continuera à se réchauffer plus que la surface des océans. Donc, on va avoir un ordre de grandeur. La Terre va plus se réchauffer que les océans, que la surface des océans, autant pour moi, à hauteur de 1,4 à 1,7 fois plus. Il est aussi pratiquement certain que l'Arctique va continuer à se réchauffer davantage que la surface de la planète, à hauteur de 2 fois le taux de réchauffement de la planète. Donc, par exemple, ça veut dire que si la température moyenne de la planète est, je vais dire 20 degrés, et bien en Arctique, il fera 24 degrés, parce que je considère que la planète a reçu une augmentation de 2 degrés, mais l'Arctique étant plus sensible aux variations de température, c'est à multiplier par 2. C'est ce que réussit à déterminer le GIEC. À chaque 0,5 degré supplémentaire, ça va entraîner une augmentation clairement perceptible de l'intensité et la fréquence des chaleurs extrêmes. C'est ce dont je vous parlais par rapport au palier. Ce n'est pas une addition. Tu ne peux Bon, enfin, on ne peut pas dire plus 0,5 degrés, ça va apporter 30% de plus, ou tant de tempêtes, ou de grosses précipitations de plus sur un mois ou sur une année. Non, c'est pas aussi simple, c'est exponentiel. Chaque palier va débloquer des facteurs et des effets qui vont amplifier ces effets néfastes ou bénéfiques s'il y en a. On va toujours en trouver quand bien même. Alors, l'occurrence de certains événements extrêmes sans précédent dans les archives d'observation climatique augmentera avec le réchauffement planétaire, même si on se limite à une barre de réchauffement climatique fixée à 1,5 degré. Donc, on est parti pour avoir des tempêtes plus fréquentes et des événements, ce qu'on peut appeler des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus intenses. On a les régions aussi qui vont subir les plus grandes augmentations des maximums de chaleur. Elles vont se situer dans les latitudes moyennes et semi-arides. Et donc, typiquement, les tropiques vont être moins affectés par l'augmentation des températures que les latitudes moyennes. Typiquement l'Europe, l'Amérique du Sud, voilà. Prenez ces latitudes, c'est là où sur les terres, en tout cas, le réchauffement climatique va être le plus intense. On parle là où les tropiques vont avoir une augmentation de facteur 1 sur nos latitudes, on aura une augmentation qui sera de l'ordre de 1,5 à 2. Donc 50 à 100% plus fort. Ensuite, nous allons avoir le fait qu'il est très probable que les régions les plus impactées par les changements, par le réchauffement climatique, verront des épisodes de fortes précipitations plus fréquents et plus intenses. Je préfère insister dessus. Et globalement, pour chaque degré Celsius en plus qu'on va avoir, on aura des épisodes de précipitations extrêmes qui devraient augmenter exponentiellement. On parle de 7%, ça commencera par 7%, ça passera à peut-être 9, 10%, c'est dans ces ordres-là. Chaque palier va augmenter énormément la fréquence, enfin, chaque palier de 1 degré, en l'occurrence, pour les épisodes de précipitations extrêmes. Et l'Arctique pourrait être dépourvu de la glace marine en septembre, au moins une fois avant 2050, pour les scénarios de faibles et de très faibles émissions. Donc, si on suit les scénarios intermédiaires très élevés et élevés, ce sera plus haut. Je vais vous partager un autre petit diagramme qui va concerner la fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes. Celui-là, il est très intéressant. Vous allez avoir plaisir à le regarder. Enfin, plaisir, tout plaisir est relatif. Et pour ceux et celles qui écoutent le podcast, vous aurez donc tous les documents en description. Alors, donc on peut voir ici que plus le réchauffement climatique augmente, plus la fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes va augmenter. Je me redis un petit peu, mais bon, pour notre graphique en rouge ici, vous voyez donc que, par exemple, une hausse de 1,2 degré, ça implique que des épisodes de chaleur extrêmes, qui n'arrivent que tous les 10 ans, sont presque trois fois plus nombreux que pendant la période 1850-1900. Donc, je vous laisse suivre ce magnifique tableau. Vous verrez que c'est quelque peu affolant par rapport au facteur exponentiel de cette hausse. À noter que les événements que je vais dire de moyenne ampleur parce qu'il n'arrive que tous les 10 ans, ont une certaine valeur d'augmentation. Tandis que les événements qui n'arrivent que tous les 50 ans sont, eux, beaucoup plus fréquents parce que normalement beaucoup plus rares. Mais le changement climatique implique que des événements qu'on ne voyait qu'une fois tous les 50 ans, des catastrophes naturelles qui n'arrivent tous les 50 ans, vont être beaucoup plus fréquentes. Par exemple, pour le podcast, si entre 1850 et 1900, il n'est arrivé qu'un seul événement climatique extrême, aujourd'hui, on en a presque 5 fois plus. On a une fourchette entre 2,3 et 6,4 fois plus. Et pour vous donner la valeur extrême, si on atteint un réchauffement climatique de plus 4 degrés, ce qui n'arrivait qu'une fois entre 1850 et 1900, je parle donc des épisodes de température extrême, va se produire presque 40 fois plus souvent. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous proposer le même type de graphique avec les sécheresses et les précipitations. Donc, pareil, vous avez... Bon, là, ils vont se limiter simplement aux événements extrêmes qui arrivent tous les 10 ans. C'est assez intéressant à étudier. Par exemple... allez, on va se prendre quoi ? Nous allons nous prendre... pour les événements de fortes précipitations sur les terres émergées, ce qui n'arrive qu'une fois entre 1850 et 1900, aujourd'hui arrive 1,3 fois plus souvent. Et dans le cas d'une hausse de 4 degrés dans le changement climatique, cela arrivera 2,7 fois plus souvent. Pour les événements dans les zones pour les événements climatiques arides, ce qui n'arrivait qu'une fois entre 1850 et 1900 arrive maintenant 1,7 fois plus souvent de nos jours. Et dans le cas d'un changement climatique avec 4 degrés de plus, ce sera 4 fois plus souvent. Ce que les études du GIEC font remonter. Et je précise que là, ces graphiques sont tirés du résumé pour les décideurs. Donc, c'est le rapport, c'est le résumé qu'envoie le GIEC au gouvernement de la planète. Donc, techniquement, tous nos gouvernements, enfin, la plupart de nos gouvernements, ont entre leurs mains ces graphiques-là. Rien que ça, si ça arrive aux yeux des bonnes personnes, ça peut avoir un certain effet. Donc, par contre, concernant le tableau brun, qui parle des épisodes arides, ça concerne pas toutes les régions du monde, ça concerne uniquement les régions sèches. Donc, qu'est-ce que c'est que les régions sèches, autant pour moi ? On va avoir l'ouest de l'Amérique du Nord, le centre de l'Amérique du Nord, le nord de l'Amérique du Sud, le nord de l'Amérique centrale, le sud de l'Amérique centrale, les Caraïbes, le nord-est de l'Amérique du Sud, on a la mousson sud-américaine, le sud-ouest de l'Amérique du Sud, le sud de l'Amérique du Sud, l'ouest et le centre de l'Amérique du Sud, l'Europe occidentale et centrale, la Méditerranée, l'Afrique occidentale, l'Afrique australe-orientale, Madagascar, l'Australie orientale et l'Australie régionale. Les régions qu'on considère comme non sèches, elles ne vont pas présenter d'augmentation ou diminution globale des épisodes arides. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, sur ces trois tableaux, il y a vraiment des paliers. Donc, on a le palier à 1 degré qui correspond au présent, le palier avec une augmentation de 1,5 degré, donc qui est sûr d'arriver avant 2040. Nous avons l'augmentation, le palier de 2 degrés, le palier de 4 degrés. Donc, pour poursuivre, on va avoir le réchauffement climatique qui devrait encore intensifier le cycle planétaire de l'eau, notamment sa variabilité, les précipitations de la mousson et la sévérité des épisodes humides et secs. Le GIEC estime avec une fiabilité élevée que le cycle planétaire de l'eau continuera à s'élever avec l'augmentation des températures mondiales. Les précipitations et les flux d'eau de surface devraient devenir plus variables dans la plupart des régions terrestres au cours des saisons, c'est estimé avec un facteur de fiabilité élevé, et d'une année à l'autre, fiabilité moyenne pour ce cas-ci. Les précipitations terrestres mondiales annuelles moyennes devraient augmenter de 0 à 5% dans le scénario très faible, de 1,5 à 8% dans le scénario intermédiaire, et de 1 à 13% dans le scénario très élevé des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2081 à 2100, par rapport à la période 95-2014. L'une des conséquences d'un climat plus chaud, c'est que va encore s'intensifier donc les périodes très humides et très sèches, ainsi que les événements climatiques et les saisons. Et les saisons vont entraîner des effets sur les inondations et les sécheresses. C'est estimé avec un vecteur de fiabilité élevé. Mais l'emplacement et la fréquence de ces événements dépendent des changements projetés dans la circulation atmosphérique à l'échelle globale, y compris pour les moussons et la trajectoire des tempêtes pour les latitudes moyennes. Alors ça va être influencé par ce qu'on appelle le phénomène d'El Niño et de l'oscillation australe. Alors El Niño, c'est un phénomène qui réchauffe les eaux équatoriales de l'Océanie de l'Océanie à l'Amérique. Ça arrive entre les mois de novembre et de janvier. Et il existe donc son contraire, le phénomène La Niña, qui va refroidir les eaux. C'est un phénomène qui peut durer jusqu'à 18 mois, et il arrive tous les 2 à 7 ans. Et il a donc une composante atmosphérique qui va réchauffer ou refroidir l'atmosphère, que l'on parle de La Niña ou que l'on parle de La Niña, qui s'appelle donc l'oscillation australe. Donc il est très probable que la variabilité des précipitations liées à La Niña et à l'oscillation australe s'amplifie d'ici la seconde moitié du XXIe siècle, dans les scénarios intermédiaires, élevés et très élevés. Et selon les estimations, les précipitations de la mousson devraient augmenter à moyen et long terme à l'échelle mondiale. Maintenant, nous allons parler des puits de carbone. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir capter sur Terre naturellement toute la production de CO2 et quel pourcentage va-t-il y avoir dans l'atmosphère? Je vous transmets ce joli graphique. Le temps que vous l'ouvriez, une petite intro. Pour les puits de carbone, dans les scénarios où les émissions de CO2 augmentent, les puits de carbone océaniques et terrestres devraient être moins efficaces pour ralentir l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Même si les puits de carbone vont capturer plus de CO2, les quantités seront telles qu'ils seront proportionnellement moins efficaces face aux émissions. Du coup, il y aura toujours plus de CO2 présent dans l'atmosphère et la part de CO2 captée par les puits de carbone terrestres et maritimes va diminuer proportionnellement. Donc là, vous pouvez voir sur notre scénario de faible émission de gaz à effet de serre et de CO2, le SSP1-9, 30% du CO2 est dans l'atmosphère et 70% va être capté dans la Terre et les océans. Ça sent que dans l'atmosphère, le CO2 a tendance à rester 200 ans. Et ça va être dégressif, qu'on passe du scénario de faible émission, le scénario intermédiaire, le scénario élevé et le scénario très élevé. Donc, pour donner les chiffres au podcast, la part de CO2 présente dans l'atmosphère va être de 35% pour le scénario de faible émission et de 65% pour la composante océanique et terrestre des puits de carbone. Dans le scénario intermédiaire, ça descend à 46% de CO2 présent dans l'atmosphère. Et là, les puits de carbone terrestres et maritimes n'en captent plus que 54%. Tout simplement parce qu'ils vont commencer à être saturés. Dans le scénario élevé, là, c'est 44% de CO2 qui va être capté par la Terre et les océans. Donc 56% va être stocké dans l'atmosphère. Et dans le scénario très élevé, donc de gaz à effet de serre et de CO2, là, on tombe à 38% de CO2 capturé par la Terre et les océans. Et l'atmosphère va donc en avoir 62%. Je précise aussi, on va revenir un instant sur le deuxième tableau que je vous ai transmis. Le petit détail à noter sur les émissions de CO2 et donc des différents gaz à effet de serre, c'est que le CO2, il est exprimé en gigatonnes de CO2 émises par an, tandis que pour les gaz à effet de serre, c'est des millions de tonnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je préfère le préciser tant que j'y pense. Désolé pour ce petit retour en arrière. Alors, continuons donc sur les puits de carbone. Le scénario intermédiaire d'émission prévoit une stabilisation de concentration de CO2 dans l'atmosphère au cours de ce siècle. Les taux d'absorption de CO2 par les terres et les océans devraient diminuer au cours de la seconde moitié du XXIe siècle. Dans les scénarios de très faible ou faible émission de gaz à effet de serre, où les concentrations de CO2 atteignent un pic, puis vont diminuer au cours du XXIe siècle, les terres et les océans commencent à absorber moins de carbone du fait de la baisse des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. C'est estimé avec une fiabilité élevée, et deviennent une source nette faible d'ici 2100 dans le scénario de faible émission. Enfin, une fiabilité moyenne. Alors une source nette faible, ça veut dire que les puits de carbone vont commencer à relâcher du CO2. On peut considérer que c'est une bonne chose. Si on commence à relâcher du CO2, c'est qu'on n'est pas saturé et qu'on se libère. Il est très peu probable que le puits global combiné des terres et des océans devienne une source nette d'ici 2100. C'est très peu probable quand bien même. Les flux de CO2 et de méthane, le CH4, et là je voulais en profiter pour faire une petite blague à la fin de ce paragraphe, Le flux de CO2 et de CH4 provenant des zones humides et la fonte du pergélisol et des incendies de forêt augmenteraient encore les concentrations de ces gaz dans l'atmosphère. Donc, c'est ce que je vous disais au départ. Le pergélisol contient un petit peu de CO2 et surtout de méthane. Les incendies de forêt vont donc provoquer une augmentation du CO2 mécaniquement. Et donc, pour parler donc, du phénomène de la fonte du pergélisol qui augmenterait les concentrations de méthane dans l'atmosphère, j'ai pensé à cette petite blague, on pourrait appeler cela le méthane hurlant. Les puits de carbone terrestres et océaniques réagissent aux émissions passées, actuelles et futures. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, les puits ont toujours en stock du carbone qui a été produit avant, vont continuer d'en capturer. Voilà, je vous refais peut-être une définition du pergélisol, parce que c'est quand même important vu que ça a c'est un effet qui inquiète énormément. Donc le pergélisol ou le permafrost, c'est un sol gelé en permanence au moins pendant 2 ans, et de ce fait imperméable dans les régions froides ou en haute altitude. Donc les puits sont aussi représentés de 1850 à 1900. Je vous donne donc un autre graphique. Ah non, je le garde un petit peu pour plus tard. Bon, pour ce qui est donc de l'étude de la composante des puits, ils ont pris en compte des données qui prennent leur base en 1850 jusqu'en 2019 pour la production du rapport actuel et donc ce graphique en précision. Donc, au cours de la période historique 1850-2019, les puits terrestres et océaniques observés ont absorbé 1430 milliards de tonnes de CO2, soit 59% des émissions, à partir de 1850. Le diagramme en barre illustre la quantité projetée des émissions anthropiques de CO2 cumulées. Donc, on a donc toujours exprimé en milliards de tonnes de CO2 entre 1850 et 2100, restant dans l'atmosphère, ainsi que celles absorbées par les terres et les océans. Donc, partie colorée, c'est ce que je vous ai expliqué. Nous avons la terre, les océans et nous avons l'atmosphère. Donc, le gris, c'est l'atmosphère. On va suivre. De nombreux changements dus aux émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient passées et futures, sont irréversibles sur plusieurs siècles, voire des millénaires. En particulier les changements concernant les océans, les canaux glaciaires et le niveau mondial des océans. Les émissions de gaz à effet de serre depuis 1750 ont engagé l'océan planétaire dans un réchauffement continu. Pour le reste du XXIe siècle, le réchauffement probable des océans varie d'un facteur de 2 à 4 pour le scénario de faible émission ou de 4 à 8 pour le scénario avec des très fortes émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Par rapport au changement de la période qu'ils ont observé, c'est-à-dire là, ils se sont basés sur l'étude de la période qui va de 1871 à 2018, simplement parce qu'ils ont eu des techniques de capture de données suffisamment efficaces pour en tenir compte. Et ça leur donne quand même un certain recul temporel, sachant que le GIEC a été créé en 1988. Les changements sont irréversibles à l'échelle du centenaire et du millénaire en ce qui concerne la température globale des océans. C'est estimé avec une fiabilité très élevée. On a aussi l'acidification des océans qui va être irréversible avec une fiabilité très élevée et la désoxygénation des océans. Vous savez, c'est ces petites zones qui apparaissent dans les océans où il n'y a plus d'oxygène et où donc toute la faune va mourir. Ces trois phénomènes seront en augmentation au cours du XXIe siècle, quoi qu'il arrive. C'est simplement parce qu'on a engagé des changements qui sont irréversibles. Et ça, c'est typiquement le type de conséquences qu'on ne va pas pouvoir limiter pendant ce siècle. Le phénomène est lancé, il n'est pas altérable, enfin, il est peut-être légèrement altérable, mais certainement pas inaltérable. Enfin, ou irréversible. Ça me semble un peu plus clair comme ça. Les glaciers des montagnes et les glaciers polaires continueront à fondre pendant des décennies ou des siècles. C'est estimé selon une fiabilité très élevée. On va avoir la perte de carbone du pergélisol suite à son dégel qui est irréversible à l'échelle du centenaire. il est pratiquement certain que le niveau de la mer continuera à s'élever au cours du XXIe siècle. Par rapport à la période 95-2014, l'élévation probable du niveau moyen de la mer d'ici 2100 est de 28 cm à 55 cm dans le scénario de très faible émission, de 32 cm à 62 cm dans le scénario de faible émission, de 44 cm à 76 cm dans le scénario intermédiaire, et de 63 cm à un peu plus d'un mètre dans le scénario très élevé. Pour le scénario élevé, les chiffres ne sont pas présents, mais je vais essayer de vous faire une approximation dans ma partie finale, dans la partie finale de ce grand moment que nous partageons tous. À l'horizon 2150, l'élévation est de 0,37 cm à 86 cm dans le scénario très faible, de 46 cm à 99 cm dans le scénario faible, de 66 cm à 1,3 m dans le scénario intermédiaire, et de 98 cm, donc presque 1 mètre, à 1,88 m dans le scénario très élevé. Donc là, c'est les chiffres pour 2150. Donc, on voit que dans le futur, sur l'échelle de 50 ans, ça, c'est exponentiel le niveau de la mer. À plus long terme, le niveau de la mer devrait s'élever pendant des siècles, voire des millénaires, en raison du réchauffement continu des océans profonds et de la fonte des calottes glaciaires, et il restera élevé pendant des milliers d'années. Donc voilà, on est parti pour avoir une certaine augmentation du niveau de la mer et une diminution des surfaces habitables, surtout au niveau des côtes, et donc de plus en plus de réfugiés climatiques à venir. Il me semble d'ailleurs qu'il y a quelques années, les premiers réfugiés climatiques ont été reconnus par l'ONU. Je ne saurais vous dire la date exacte, mais il me semble que c'était en 2006. On y reviendra ensuite. Au cours des 2000 prochaines années, le niveau de la mer augmentera d'environ 2 à 3 mètres si le réchauffement est limité à 1,5 degré, de 2 à 6 mètres s'il est limité à 2 degrés, et de 19 à 22 mètres avec un réchauffement de réchauffement de 5 degrés. Il continuera à augmenter dans les millénaires suivants. Je vais vous envoyer maintenant le dernier petit graphique. C'est un peu un résumé de l'impact des activités humaines dans le temps. Un petit instant, je vous retrouve le chat. Le voici, il est merveilleux. Donc, vous pouvez voir dans le premier encadré l'évolution des températures sur un vecteur linéaire. Donc, là, vous voyez des plages en rouge clair et en bleu clair. Ça, en fait, c'est les probabilités d'évolution du scénario faible et du scénario élevé. Ils n'ont pas pris le plus faible ni le très élevé, mais ils s'accordent à dire qu'il y a une fourchette d'évolution possible au niveau des températures autour de ces deux scénarios-là. Enfin, du moins, ils essayent de la projeter en diagramme. Ensuite, le deuxième, ça va être l'acidité des océans. Toujours très agréable. Le deuxième, c'est la superficie de la banquise arctique en septembre. Un très bon effet. Le troisième, ça va être donc l'acidité des océans. Le quatrième, le D, ça va être les variations moyennes du niveau de la mer des océans par rapport à 1900. Et donc le E, ils se font une projection dans le futur en allant jusqu'en 2300, en essayant de voir les variations des moyennes mondiales du niveau de la mer. Enfin, du niveau des océans, plutôt. Alors, on va continuer. Comme je vous disais, la superficie de la glace marine arctique en septembre. Les plages très probables sont indiquées pour les scénarios donc faibles et élevés. Selon les prévisions, l'Arctique sera pratiquement dépourvu de glace vers le milieu du siècle dans le cadre des scénarios intermédiaires et élevés. Bon. Voilà pour qui étaient les océans. Alors, à dire vrai, ma partie est terminée. Mais je vais essayer quand même de vous faire un petit résumé des scénarios pour pouvoir ensuite laisser la parole à HK. Donc, on va retrouver les noms barbares complets de nos chers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Nous avons le SSP1-1.9, qui est donc constitué d'émissions de gaz à effet de serre très faibles, d'émissions de CO2 en diminution, d'émissions faibles de CO2 en diminution, et qui vont être négatives après 2050. En moyenne, on va avoir 1,5 degré Celsius de plus d'ici 2040. D'ici 2060, ce sera 1,6 degré Celsius de plus d'ici 2060 et 1,4 degré Celsius de plus d'ici 2100. On voit que là, si on arrive à se limiter à une hausse, à limiter nos productions de gaz à effet de serre et de CO2, on arrive à stabiliser la température vers 2100, autour de 1,4 degré de plus. Par rapport à la période 1850-1900, et sur un climat sans influence humaine, alors ça c'était aussi très important à tenir compte pour le graphique qui concerne les fréquences et l'intensité des phénomènes extrêmes, donc là où vous avez les événements de température extrême, ainsi que les sécheresses et précipitations, ça tient en compte d'un climat sans influence humaine. C'était plus simple pour eux de le calculer. Donc là, dites-vous, ce qui est présent, enfin les chiffres que vous avez eus et l'estimation que vous avez eue, c'est avec des émissions de CO2 d'origine humaine et de gaz à effet de serre, nul. Ce qui ne sera pas le cas. Donc, pour ce scénario 1, donc les événements de chaleur extrême sur 10 ans seront entre 2,8 et 4,1 fois plus fréquents, avec des températures qui seront avec des températures extrêmes, donc le maximum de chaleur atteint durant ces épisodes, qui seront supérieurs de 1,9 degré, tandis que la hausse moyenne de la température n'est que de 1,4 degré en 2100. Pour les événements de chaleur extrême sur 50 ans, alors on a vu que sur 50 ans, ils sont encore plus sensibles aux variations de fréquence et d'intensité. Plus c'est rare, moins ça va l'être. Enfin, plus c'était rare, moins ça va l'être, si vous voulez aller par là. Ce qui est arrivé qu'une fois en 50 ans, pourra arriver plusieurs fois en 50 ans dorénavant, selon l'augmentation de la température terrestre. Donc là, dans le cadre du scénario 1, les événements de chaleur extrême sur 50 ans seront entre 4,8 et 6,2 fois plus nombreux d'ici 2100, avec des températures extrêmes en hausse de 2,1 degrés. Pour les précipitations extrêmes, on aura une hausse de 30% des événements. Et pour les épisodes arides, on aura une augmentation de ces événements de 100%, c'est-à-dire ils seront deux fois plus nombreux. Et quant à l'augmentation du niveau de la mer, comme je vous l'ai dit, c'est estimé entre 28 cm et 55 cm par rapport à la période 95-2014. Pour le scénario faible, notre cher SSP1-2.6 ou 2.6, nous avons des émissions de CO2 en diminution et négatives après 2075. En moyenne, on aura 1,5 degré Celsius de plus d'ici 2040, 1,7 degré Celsius de plus d'ici 2060, 1,8 degré Celsius de plus d'ici 2100. Les événements de chaleur extrême sur 10 ans seront entre 2,8 et 5 fois plus nombreux d'ici 2100 et 2,1 et de températures extrêmes et les températures extrêmes seront influencées à hauteur de 2,1 degré de plus. Quant aux événements de chaleur extrême sur 50 ans, ils seront entre 4,8 et 6,2 fois plus nombreux d'ici 2100, et les températures extrêmes atteindront 2,2 degrés de plus. Les précipitations extrêmes sont en hausse de 190% et les épisodes d'aridité extrême sont en hausse de 240%. L'augmentation du niveau de la mer, elle, est estimée à entre 32 cm et 62 cm. Pour notre cher scénario intermédiaire, le SSP2-4.5, nous avons des émissions moyennes de gaz à effet de serre et des émissions de CO2 en légère augmentation jusqu'en 2050 et diminuant ensuite. Donc nous avons 1,5 degré Celsius en plus d'ici 2040, 2 degrés d'ici 2060 et 2,7 degrés d'ici 2100. Les événements de chaleur extrême sur 10 ans seront entre 2,8 fois plus nombreux et 6,5 fois plus nombreux d'ici 2100. Les températures extrêmes atteindront 3 degrés de plus. Les événements de chaleur extrême sur 50 ans ils seront entre 4,8 fois plus nombreux et 20 fois plus nombreux d'ici 2100. Les précipitations extrêmes seront en hausse de 220%. Les événements d'aridité extrême sur les terres sèches seront en hausse de 310%. L'augmentation du niveau de la mer est-elle estimée à entre 44 cm et 76 cm. C'était donc pour le scénario intermédiaire. Pour le scénario avec des émissions élevées de gaz à effet de serre et des émissions de CO2 doublées d'ici 2100, c'est le SSP3-7.0. Nous avons 1,5 degré Celsius en plus d'ici 2040, 2,1 degré Celsius en plus d'ici 2060, 3,6 degrés Celsius en plus d'ici 2100. Les événements de chaleur extrême seront entre 10 fois sur 10 ans seront entre 2,8 fois et 8,3 fois plus nombreux d'ici 2100 et les températures extrêmes ressenties seront de 4,2 degrés de plus. Les températures ressenties, c'est différent. Les événements de chaleur extrême pour ce scénario qu'on appelle le scénario élevé. Sur 50 ans, ils seront entre 4,8 et 7 fois et 27 fois plus nombreux cette fois-là d'ici 2100. Donc 4,8 à 27 fois plus nombreux pour des événements de chaleur extrême. Et les températures extrêmes seront elles en hausse de 4,5 degrés. Pour ce qui est des précipitations extrêmes, elles seront en hausse de 250%. Les événements d'aridité extrême sur les terres sèches seront en hausse de 350%. L'augmentation du niveau de la mer est estimée à 57 cm à 82 cm. Et ça, le GIEC ne proposait pas ces chiffres. Du coup, c'est moi qui ai fait la formule et j'en suis pas sûr. Du coup, pour ce qui est de l'augmentation de la Terre dans le scénario élevé, donc entre 57 cm à 82 cm, mettez de grosses parenthèses. Ce sont des chiffres que c'est moi qui vous les ai pondus. Pour que pouvoir simplement comparer avec les autres scénarios où, dans ce cas-là, le GIEC a fourni les valeurs, mais je ne sais pas pourquoi, mon corps bascule, mais le GIEC n'a pas proposé les chiffres d'augmentation du niveau de la mer pour le scénario élevé, d'ici 2100, veux-je dire. Donc, il nous reste enfin notre dernier scénario, notre Big Boss, le SSP5-8.5, avec des émissions très élevées de gaz à effet de serre, et des émissions de CO2 doublées d'ici 2050. Pour rappel, parce que vous êtes peut-être un peu perdu, dans le scénario élevé, le scénario juste avant, les émissions de CO2 sont doublées d'ici 2100. Là, pour le scénario, ultime, le scénario très élevé, les émissions de CO2 sont donc doublées en 2050. Et les émissions de gaz à effet de serre sont aussi très importantes. On a 1,6 degré Celsius de plus d'ici 2040, 2,4 degrés de plus d'ici 2060, 4,4 degrés de plus d'ici 2100. Les événements de chaleur extrême seront entre 2,8 et 9,6 fois plus nombreux, et les températures extrêmes seront de 5,1 degrés de plus. Les événements de chaleur extrême sur 50 ans seront entre 4,8 et 40 fois plus nombreux d'ici 2100. Oui, 40 fois plus nombreux. Et les températures extrêmes seront de 5,6 degrés de plus. Pour ce qui est des précipitations extrêmes, on a une hausse de 280%. Et pour les événements d'aridité extrême, nous avons une augmentation de 420%. Et l'augmentation du niveau de la mer est estimée à 63 cm à 1 mètre et 1 cm. Voilà, j'ai vraiment bientôt terminé. Je vous ai résumé donc les 5 scénarios. Mais je vais quand même vous rappeler deux, trois informations. Pendant le 21e siècle, le réchauffement probable des océans va varier d'un facteur de 2 à 4 pour le scénario faible ou de 4 à 8 pour le scénario très élevé par rapport au changement de la période 71-2018. Donc, les océans vont quand même plus ressentir le réchauffement climatique que les terres. Enfin, dans une certaine mesure, la fourchette, c'est vraiment les fourchettes qui vont retenir, vont être variables en suivant les scénarios concernant le réchauffement probable des océans. Donc, je répète, de 2 à 4 pour un scénario de faible émission, le légèrement optimiste, et de 4 à 8 pour le scénario pessimiste, donc avec de très grandes productions de CO2 et de gaz à effet de serre qui vont être doublées d'ici 2050. Ensuite, vraiment, cette histoire de palier nous tient à cœur. Chaque 0,5 degré supplémentaire entraînerait une augmentation clairement perceptible de l'intensité et de la fréquence des chaleurs extrêmes. Et globalement, pour chaque degré Celsius en plus, les épisodes de précipitations extrêmes devraient augmenter exponentiellement. Et l'occurrence de certains événements extrêmes sans précédent dans les archives d'observation climatique augmentera avec le réchauffement planétaire, même avec une barre de 1,5 degré de réchauffement. Et donc aussi, une dernière chose, l'Arctique devrait être la région du globe avec la plus haute augmentation des températures minimum dans un facteur de x3 par rapport à la température moyenne sur Terre. Donc là, ce n'est pas les températures moyennes, mais réellement les températures qu'on appelle minimum qui vont être impactées en Arctique. Et les températures moyennes de l'Arctique, tourne autour de, allez, on va dire, moins 20%, le changement climatique va faire que les températures minimales, donc pas minimales, mais maximales de l'Arctique, vont être autour de moins 4 degrés Celsius, alors que sur la surface terrestre, les températures minimales seront beaucoup moins impactées. Et donc, il me semble que j'ai fait un petit tour des possibles effets des climats futurs, et surtout le plus intéressant, c'est vraiment de décrypter les scénarios. Et donc, vous avez beaucoup de données à extraire de tous les schémas qui ont été produits. Et pour vous plonger dans le sujet, vous allez pouvoir vous plonger avec joie dans le rapport du GIEC si vous avez un bon niveau d'anglais. Aussi à savoir que le rapport final complet doit sortir en 2022. Écoute, les effets positifs, il y en a certains qu'on connaît, mais il y en a d'autres qu'on découvrira peut-être. Et maintenant, je vais laisser la parole à HK pour sa suite.
Et donc, je reprends la parole et je vais vous présenter les risques et adaptations locales. Alors, effectivement, à Cutre-Poutre, on a vu que 1,5 ou 3 degrés, tout compte fait, ça n'a pas changé grand-chose. Eh bien, d'aucuns diraient, l'eau, l'air, le feu, la terre, tous ces éléments vont avoir un impact. Et effectivement, les risques vont être accrus. Donc, Troupeau a déjà fait donc quelques petits passages sur certains de ces événements extrêmes, donc par exemple l'augmentation des moussons, tout ça. Donc on voit dans le graphique que j'ai partagé dans le chat que on peut classer donc par différentes catégories et voir que par exemple pour tout ce qui est variation extrême de chaleur ou de froid, il y aura beaucoup plus de grands écarts. Il y aura bien sûr donc, plus de débordement d'eau, je sais plus comment ça s'appelle en français. Les océans donc vont s'acidifier. Il y aura beaucoup en fait d'événements qui seront impactés. Alors plus ou moins, parce qu'il y en a qui vont avoir où on est moins certain qu'il va y avoir un impact. Donc en regardant ce graphique là, vous pourrez voir lesquels ont plus ou moins d'impact. Mais donc les quatre éléments seront là et on va les voir plus souvent à la télévision et à la radio. Ensuite, par rapport à ces événements, ça sera donc une pollution de 1 pour tous, et tous ne subissent pas les mêmes conséquences. Effectivement, au niveau de la position géographique des événements, ces régions du monde ne seront pas impactées de la même façon. Donc, par le graphique que je vous ai posté là dans le chat, on voit que pour tout ce qui est chaleur, il va y avoir donc des extrémalisations de chaleur dans certains endroits, en particulier donc là on voit donc l'Amazonie, le sud, le bassin méditerranéen, le sud de l'Afrique et en fait aussi le sud d'Australie, ça ne va pas très bien mais je vous passerai notre diagramme. Pareil pour les moussons, il y aura donc une augmentation de tout ce qui est précipitation. Et donc pas partout, donc ce sera que à certains endroits. Et on voit effectivement que les endroits les plus touchés, c'est peut-être pas ceux qui polluent le plus actuellement. Donc c'est assez inégal et injuste, mais c'est le monde, on va dire. Ensuite, je vais peut-être vous partager. Non, ça je le partagerai en détail. Et donc pour finir, je vous parlerai aussi des grands risques, comme a dit notre poutre, c'est que même si certains grands risques sont peu probables, ils impliquent quand même de grands impacts. Par exemple, la MOC, enfin ce que nous on appelle le Gulf Stream communément, mais qui en fait c'est le courant, le courant océanique atlantique. Donc on suppose qu'il aura peu. Il va pas disparaître, ça c'est sûr, c'est certain. Par contre, effectivement, on a des simulations qui vont dire qu'il va faiblir. S'il disparaît, effectivement, son impact sera assez conséquent. Mais comme il disparaîtra, il va juste avoir on simule qu'il va y avoir donc juste des réductions, ce qui fait que la certitude que ce courant, enfin ce changement-là aura un impact au niveau climatique est réduit. Donc voilà pour cette partie sur les risques et les adaptations locales. Donc c'est-à-dire que on a vu qu'il y avait énormément de types de risques qui vont nous impacter donc que chaque régionalité devra s'adapter de manière différente parce qu'elle ne sera pas impactée de la même façon. Voilà, donc j'ai fini pour cette partie-là et je laisse la parole à Azote pour la suite.
Alors la suite, c'est la partie D sur la limitation des futurs changements climatiques. Donc depuis le 5e rapport d'évaluation du GIEC, les estimations des budgets carbone restants pour le futur ont été améliorées par une nouvelle méthodologie. Donc ça consiste à mettre à jour les données et à intégrer au calcul les résultats de multiples croisements de données. Et pour évaluer avec cohérence les effets d'hypothèses sur le climat et la pollution de l'air, on utilise le facteur de futur contrôle de la pollution de l'air. Donc. Et la nouveauté par rapport au rapport SR1.5, donc c'est le rapport du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire d'1,5 degré, ça consiste à déterminer le moment auquel les effets de la réduction des émissions deviendraient discernables, parce que l'idée c'est que ça se confond avec les variations naturelles du climat et ses réponses aux facteurs naturels. Donc, limiter le réchauffement climatique à une certaine ampleur nécessite de limiter les émissions de CO2 en atteignant au moins un taux net de CO2 nul. Les émissions d'autres gaz à effet de serre doivent également être fortement réduites. Des réductions fortes, rapides et durables des émissions de CH4, donc de méthane, limiteraient également l'effet du réchauffement et amélioreraient la qualité de l'air. Ce rapport réaffirme avec une grande assurance la conclusion du AR5, donc le 5e rapport du GIEC, le précédent, selon laquelle il existe une relation quasiment linéaire entre les émissions de CO2 d'origine humaine et le réchauffement climatique. Les chiffres, c'est que chaque tranche de 1000 gigatonnes d'émissions de CO2 provoque une augmentation de entre 0,27 degré à 0,63. Et l'estimation qui est utilisée le plus souvent, c'est 0,45 degré parce que ça semble être la plus juste. Cette fourchette d'augmentation de la température de l'air, elle est plus restreinte que celle du 5e rapport du GIEC parce qu'ils ont amélioré les calculs. Et cette quantité, ça c'est le TCRE, à savoir la réponse climatique transitoire aux émissions cumulées de CO2. Donc, vu qu'il y a une relation presque linéaire quasiment linéaire entre nos émissions et le réchauffement climatique, ça implique que pour stabiliser l'augmentation de la température mondiale d'origine anthropique, une des conditions nécessaires, c'est l'atteinte d'un niveau net zéro des émissions de CO2. Donc il faut que nous nous allouions à un budget carbone. Donc un budget carbone, c'est une quantité d'émissions de CO2 qu'on s'engage à respecter pour limiter le réchauffement à une température donnée. Donc ça varie en fonction des scénarios. Donc un premier graphe. Voilà. Donc sur la ligne noire à gauche, ça représente les données historiques sur nos émissions de CO2. Et la plage grise qui est derrière, c'est une estimation de l'impact humain historique sur les réchauffements de la surface. Après, donc on voit la relation presque linéaire entre les émissions de CO2 et l'augmentation de la température de surface. Donc sur le graphique toujours, les zones colorées représentent les plages estimées des projections en termes de réchauffement de la température globale. Et les lignes colorées, ça montre la médiane estimée comme résultat des émissions cumulées de CO2 depuis 2020 jusqu'à la date d'inversion du forçage radiatif, donc selon chaque scénario. Et en dessous, on voit nos émissions, et en fonction des scénarios, en gros, combien on va émettre de CO2 sur une période donnée. Donc là, on montre 2020, puis on fait un marqueur à 2030, donc tout ça tous les 10 ans jusqu'à 2050. Et on voit que on émet quand même nettement plus sur les scénarios, par exemple SSP2-4.5, que sur le scénario aux émissions les plus faibles. Entre 1850 et 2019, on a émis entre 2150 et 2630 gigatonnes de CO2. On a estimé le restant du budget carbone en fonction des scénarios et des limites de température globale fixées. Et donc cette projection, cette estimation de notre budget carbone, elle se base sur 6 points. Donc le premier, c'est l'estimation du réchauffement climatique historique. Le deuxième, les facteurs menant à un réchauffement autre que les émissions de CO2, comme par exemple les émissions de méthane ou autres. Les émissions de CO2 d'origine dite naturelle, comme par exemple les émissions du permafrost qui libère du CO2 quand il fond. Et du méthane. L'estimation du réchauffement à la surface de la Terre en fonction des émissions de carbone. Donc, ce qui fait qu'il y a la relation quasiment linéaire entre nos émissions et le réchauffement. Le changement de température lorsque les émissions de CO2 auront atteint un résultat proche du strict zéro, donc quand le forçage radiatif s'inverserait. Et la variabilité naturelle des températures de surface. Alors, un deuxième graphe, j'arrive. Hop. Voilà. Donc, ce tableau, ça montre l'estimation des émissions historiques de CO2 et les budgets carbone restants. Donc, on voit en gros ce qu'on a mis entre 1850 et 2019. Donc tout en haut à gauche. À droite, pardon. Et entre du coup 1850 et 2019, on aurait gagné 1,07 degré. Après, on voit les objectifs qui sont fixés et la température qui nous reste pour atteindre ces objectifs de température, par exemple, pour rester à 2 degrés d'augmentation de la température, il nous reste 0,93 degrés. Et après, on voit les probabilités de limiter le réchauffement planétaire à la limite de température fixée, avec les budgets carbone alloués en fonction. Maintenant, on va parler du CDR. Donc c'est l'acronyme de Carbon Dioxide Removal. C'est une technique qui permet de retirer le CO2 déjà émis dans l'atmosphère et de le stocker dans des réservoirs. Donc ça pourrait permettre de compenser les émissions dites résiduelles pour réellement atteindre le niveau zéro en termes d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en général. On pourrait également l'utiliser pour faire baisser la température de surface, mais cette méthode peut influencer la disponibilité et la qualité de l'eau, donc la production de nourriture et la biodiversité. On sait aussi qu'avec cette méthode, il serait peut-être possible de faire baisser la concentration atmosphérique en CO2, donc, et d'inverser surtout l'acidification de la surface des océans. si nous parvenions à ne pas émettre de CO2 pour que les émissions soient négatives sur la durée, l'augmentation de la température de surface induite par le CO2 pourrait être graduellement inversée, mais d'autres changements climatiques pourraient continuer dans leur direction actuelle de quelques décennies à un millénaire. Donc, une information de haute confiance. En l'état des choses, ça prendrait plusieurs siècles, à un millénaire pour que la montée globale du niveau de l'eau s'inverse, même si on était largement sous le seuil des émissions de CO2 strictement négatives. Dans les 5 scénarios illustrés, les changements simultanés en CH4, aérosol et les émissions de précurseurs d'ozone, qui contribuent également à la pollution de l'air, ça conduit à un clair réchauffement à court et à long terme. Ça veut dire que les aérosols et les précurseurs d'ozone permettent de refroidir les températures de surface, en faisant écran en quelque sorte. Donc en empêchant les rayons UV de parvenir jusqu'au sol. Dans les 5 scénarios illustrés, les émissions de CH4, de précurseurs d'ozone et d'aérosols se réduisent en même temps, bien qu'à un moment et à une vitesse différente. Est-ce que c'est intéressant que je fasse un point sur les aérosols, qu'est-ce que c'est, ou est-ce que ce qu'a dit l'autre poutre a suffi? Ou est-ce qu'il faut rappeler un peu? Bon, on va dire que c'est bon. À long terme, ce réchauffement est plus faible dans les scénarios prenant en compte des contrôles de la pollution de l'air couplés à une forte et maintenue réduction des émissions de CH4. Dans les scénarios de basse et très basse émission de gaz à effet de serre, les réductions des émissions d'aérosols mènent à un clair réchauffement, tandis que les réductions de CH4 et autres émissions de précurseurs d'ozone mènent à un net refroidissement. Des scénarios avec de faibles ou très faibles émissions de gaz à effet de serre entraînent sous plusieurs années des effets perceptibles sur les gaz à effet de serre et sur les concentrations en aérosols, ainsi que sur la qualité de l'air comparée aux scénarios avec fortes ou très fortes émissions de gaz à effet de serre. Sous ces scénarios opposés, il faudra 20 ans pour que des différences entre les tendances de température de la surface mondiale soient perceptibles, et une plus longue période de temps encore, pour la plupart des autres facteurs de changement climatique. Pendant le confinement, par exemple, donc pour illustrer l'idée que les aérosols, ça permet de refroidir la température de l'air, enfin la température tout court d'ailleurs. Donc pendant le confinement, l'air était moins pollué parce qu'on avait émis moins d'aérosols, sauf que du coup le forçage radiatif a légèrement augmenté et la quantité de CO2 émise a aussi continué à augmenter. Et cette augmentation du forçage radiatif est par contre tellement minime que c'est compliqué de la distinguer des variabilités naturelles. Dans les scénarios, on réduit les émissions de gaz à effet de serre et donc ça permet d'améliorer la qualité de l'air. Sur le court terme, c'est pas suffisant pour améliorer la qualité de l'air dans certaines régions jusqu'aux normes recommandées par l'OMS. Quand, à la place de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on réduit fortement les émissions de polluants atmosphériques, la qualité de l'air s'améliore plus rapidement. Seulement, sur le long terme, c'est quand même nettement plus intéressant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Donc, en gros, à partir de 2040, ça devient plus intéressant de réduire les deux. Les scénarios de forte réduction des gaz à effet de serre, donc faibles et très faibles, auraient à la fois des effets rapides et durables pour limiter le changement climatique d'origine humaine, en comparaison avec les scénarios à faible réduction des gaz à effet de serre, donc les deux pires scénarios, entre guillemets, émissions élevées et très élevées. Encore une fois, ces réactions ne seront pas visibles au début, jusqu'à environ 2040, car masquées par la variabilité naturelle. Pour la température de la surface mondiale, les écarts de tendance sur 20 ans se remarqueraient sur le court terme avec un scénario de très faible émission de gaz à effet de serre, en comparaison avec les scénarios de fortes ou très fortes émissions de gaz à effet de serre. L'effet de la variation de nombreux autres facteurs climatiques serait visible plus tard dans le 21e siècle. Donc, encore une fois, la variabilité naturelle masquerait l'effet de ces variations. Un dernier point, et après je vais repasser la parole à Paradigme. Donc, d'ici à la fin du siècle, les scénarios avec de faibles et très faibles émissions limiterait fortement les changements de plusieurs CID. En fait, c'est ce qui nous montre le plus visiblement que notre activité a un impact sur la Terre et son fonctionnement. Donc, par exemple, des événements extrêmes. Et donc, avec ces scénarios de faibles et très faibles émissions, des événements climatiques comme des catastrophes naturelles ne seraient pas plus fréquents qu'aujourd'hui. Mais en fait, je crois que je dis n'importe quoi parce que l'autre poutre a dit l'inverse tout à l'heure. Du coup, bah, je retirerai ce que je viens de dire et voilà. Et je repasse la parole à Paradigme.
Hop, voilà, c'est bon, vous m'entendez ?
Oui.
Du coup, ouais, j'ai eu des coupures, il y a des moments où j'ai pas tout suivi. J'ai vu au début qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec, je crois que c'était les boucles de rétroaction, qui étaient en désaccord avec, c'était HKMan ou je crois. Du coup, là, on va passer à la partie questions. Donc, est-ce qu'on fait par écrit ou par oral, c'est ça le truc?
Alors, dans tous les cas, petite pause, petite entracte, je vais relancer les bots d'enregistrement.